Bien, pour cette émission Tourne-Page, nous vous proposons un livre d'Adrienne Broder, Festin sauvage. C'est édité chez Jean-Claude Lattès. Et c'est à la fois un roman, mais aussi une, on pourrait dire, une étude sociologique au travers du roman, puisque en dehors de l'histoire proprement dite des personnages, des protagonistes de l'histoire, il y a des questions de sociologie. On est dans un pays et dans un milieu assez aisé, où il y a des conventions, où il y a ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui se...
Et des conventions là où on ne les attend pas. On se dit, faut savoir ce qu'on veut de temps en temps quand même. Hein.
Voilà, avec oui. aussi quelquefois des entorses au code qui paraissent éclatantes. Et puis alors, une intrigue psychologique sur la relation qui peut exister entre mère et fille et qui s'étend sur plusieurs générations. C'est-à-dire, il y a la grand-mère, il y a la mère, il y a la fille et la petite-fille. Et donc, aspect psychologique, l'aspect aussi des relations entre couples, les couples qui se croisent, qui échangent, qui finalement acceptent une certaine liberté. Et lorsque cette liberté vient à défaire leur propre couple, toute la liberté que l'on avait lorsque soi-même en était, disons, non respectueux des règles en usage, deviennent, lorsque on est mis devant le fait accompli, bon alors, divorce ou pas divorce ? Ah ben non, pas divorce. Donc, l'amante, elle reste toute seule. Enfin bon,
c'est pas le jeu, mais c'est
assez intéressant de voir qu'il y a ces différentes manières d'aborder, et suivant le point de vue que l'on a, si on est fille, si on est garçon, si on est dans ce cas d'enfant de couple reconstitué, ou bien... Voilà, et il y a aussi, ça aussi, c'est une des clés du roman, c'est quelle est la situation des enfants qui vivent entre des parents qui ont chacun refait leur vie et qui, quelquefois, jouent de ça dans les relations familiales.
Inévitablement. Et alors moi, là, je me demande, quand j'avais acheté ce livre, je me demande si je ne l'avais pas acheté à cause d'une accroche que j'avais dû lire peut-être dans un c'est « Ce soir, maman m'a dit ».
Oui, c'est ça, c'est voilà. Ça, « Ce soir, maman m'a dit ».
Voilà.
Et ce soir, maman m'a dit « J'ai un amant et c'est un tel ».
Il m'a embrassée, là, au début. C'était simplement « Maman m'a dit que machin m'avait embrassée ». C'est le voisin, je crois. Et qui était le meilleur ami du père, etc. Et alors moi, j'ai lu cette phrase-là, et évidemment, avec l'éducation qu'on a eue, c'était vraiment... J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment on peut faire ça, de prendre sa fille adolescente pour confidente? Parce qu'on comprend tout de suite ça, et ça va nous suivre après. Et alors, on peut avoir une lecture de gens, peut-être que pas mal de gens connaissent ça, au fond, moi, ça me paraît un monde étranger, dans lequel je me suis dit, là, je vais rentrer dans un monde qu'évidemment, nous, on était dans le monde du... Si je dis le monde du silence, le monde du non-dit, le monde dit un monde où nos parents sont dignes. Et oui, ou alors il y avait aussi quand même du courage et on ne s'épanchait pas. C'était aussi, on affronte ses problèmes, mais on ne fait pas partager à nos enfants. Voilà, et puis là, d'un seul coup, là, je lis cette petite phrase et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est complètement toxique, ce truc-là. Enfin, puis je me suis dit...
L'auteur ressent cela comme toxique. Ben, elle explique la toxicité de son éducation.
Je comprends, moi, je l'ai senti comme ça.
Et même de son pas d'éducation. Alors, son pas d'éducation, au début, c'est très amusant. Je ne sais pas si je vais retrouver ça, mais c'est lorsqu'elle veut offrir un bouquet à sa mère et puis elle trouve que les fleurs du jardin, elles sont quand même assez ordinaires, mais que quand même... l'ensemble des fleurs du jardin d'à côté sont très belles, ont des couleurs vives, et donc elle va ratiboiser les fleurs du voisin et elle ramène triomphalement ce bouquet à sa mère, ce merveilleux bouquet à sa mère de toutes les couleurs. Et effectivement, il ne vient pas à l'idée de sa maman de lui dire « mais au fait, où tu as eu ces fleurs ?» où elle devait bien s'en douter, mais finalement rien ne se passe, ce bouquet est magnifique, merci ma chérie, etc. Donc elle dit bien,
et on enchaîne.
D'emblée, et on enchaîne sur l'histoire. Et d'emblée, oui, c'est, elle dit, bon, ben, j'ai eu une éducation toxique de bout en bout, quoi. En fait, le bien, le mal, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, c'était même pas une question qui se posait.
Non, parce qu'elle a quand même...
On vit comme ça.
Il faut quand même dire qu'il se passe plein de choses et qu'on va de surprise en surprise, faut pas trop en dire. Faut pas tout raconter, parce que vraiment, ça aussi, c'est très fort, parce qu'il y a une analyse psychologique absolument redoutable et incisive, et en même temps, c'est pas construit comme un polar, mais presque. Hein, on a des développements, on va de surprise en surprise tout le long du bouquin. Mais il y a ce côté toxique qui quand même va être un fil conducteur, je trouve, dans tout le roman.
Hein. Oui, et il s'agit pour elle de se sortir de cette toxicité pour entrer pas dans le rang, mais dans quelque chose qui est des relations plus faciles et plus normales.
J'allais dire, entrer dans un peu de normalité ne nuirait point, tu vois, mais c'est ça, parce qu'au fond, tout ça, c'était quand même bien flippant, même si ça fait partie de son quotidien d'être la confidente et l'alibi et de construire sa vie autour de permettre à sa mère de faire toutes ces bêtises. C'est au fond, après, elle se rend compte.
Alors, c'est l'alibi de sa mère, mais ça devient après l'alibi du couple des amants.
Oui, bah ça
donc à organiser, quitte à organiser, voyons comment on peut faire avaler que maman a besoin d'aller à New York au moment où le compagnon s'y trouve. Et alors là, il y a l'alibi de la grand-mère, et la grand-mère qui était aussi toxique. Et alors, c'est très amusant parce que il y a aussi un fond d'alcoolisme, c'est-à-dire que pratiquement chaque rencontre, chaque soirée, ça commence par des apéros. Alors, sauf le gin, parce que le gin, c'était ce que maman me donnait quand j'avais mes règles et que j'avais mal au ventre. Ça, j'ai trouvé ça remarquable comme manière de soigner les personnes. Et puis, il y a donc aussi la relation qui se joue entre l'homme et la femme. Parce que dans cette affaire, on a toujours l'impression que les femmes ne sont pas les victimes, mais enfin, bon, l'homme intervient en contrepoint. Il profite des situations, alors que ce soit le couple de son beau-père et de sa mère, le couple des amis de ses parents dont son amant, le couple de leur fils et elle-même, ils se marient. Donc là aussi, comment peut-on mener le mensonge au point de faire en sorte qu'il rejaillisse sur l'histoire des enfants?
Ça fait des sacrées casseroles à traîner quand même. Si tu vois un
c'est
peu
vrai,
comment
on se demande, comment peut-on vivre avec autant de questions, quoi.
Vous écoutez Radio Grand Ciel.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Et puis il y a quand même son souci. Bon, je vais aller. Voilà, elle coupe. On tranche la vie en un certain nombre de secteurs. La vie affectueuse, amoureuse, familiale, et puis il y a le monde de l'école. Alors dans le monde de l'école, eh bien là, c'est très important de réussir, donc tout ce qu'il faut pour réussir, et puis là aussi on voit l'espèce de schizophrénie qui atteint les êtres lorsque finalement on leur demande réussir à l'école, quoi. C'est ça, sans se rendre compte que la réussite de l'école, ça peut être aussi facilité lorsqu'on a un arrière-fond solide ou stable, et qu'on va à l'école en étant libéré, en ayant l'esprit libéré par rapport à tout ça. Donc là, on trouve aussi ces questions posées dans la vie des personnes. Comment peut-on vivre en ayant toutes ces casseroles? Et puis, eh bien, on voit, c'est très intéressant, elle a aussi cette héroïne sur le tard, lorsque elle se pose des questions par rapport à son couple, et avant qu'elle ne divorce, se pose la question du rôle de la littérature. Le rôle de la littérature comme un peu le miroir de sa vie propre et qui permet d'avancer sur un chemin. Donc elle a une belle-mère, parce que finalement, si sa mère s'est remariée, son père aussi, donc une belle-mère qui lui fournit des livres.
Et
ça, c'est assez... intéressant de voir.
C'est peut-être le plus beau de l'histoire, je trouve ça.
Comment
ce lien qui se tisse par les livres qu'elle donne, sans rien dire, si
voilà.
Je me.
Voilà, c'est ces livres.
Lisa, tiens.
Lisa.
Oui,
voilà.
Et c'est tout.
Ça aussi, je trouve que c'est fait par petites touches et par comment l'aide peut être apportée par finalement le livre qui va amener à réfléchir. Et je crois qu'effectivement, un bon livre, c'est ce qui nous amène à repenser notre propre histoire.
Ça fait réfléchir et en même temps, il y a aussi, je trouve, dans tout ce qu'on peut lire, ah ben, je ne suis pas toute seule. Souvent, quand on lit ben, pas forcément un livre entier, mais on trouve des choses où on se dit, mais ça me parle parce que je connais.
Voilà, c'est criant de vérité.
Et en même temps, du coup, il y a une espèce de fraternité qui ne peut pas dire son nom, bien sûr. On se sent quand même épaulé. Parce qu'il faut quand même qu'elle en encaisse, elle en a beaucoup encaissé. Et puis je pense que le fait qu'elle finisse par trouver ça normal d'une certaine façon, c'est juste une partie. En réalité, je pense qu'il y a un grand fond d'elle qui montre bien que tout ça, elle voyait bien que c'était pas normal, quoi. Et que,
alors c'est intéressant, ça, cette toxicité et cette volonté un jour de clarifier les choses avec son mari. Et finalement, lui ne perçoit pas cette. Ce besoin, donc il n'en parle pas. Et quelques années plus tard, lorsqu'il apprend qu'il y avait cette liaison, mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé ? Je ne t'en ai pas parlé. C'est, à un moment, j'ai essayé de t'en parler, mais ça n'est pas venu, ça n'a pas pu se faire. Et donc là aussi, les occasions ratées de faire la vérité sur soi. Ça, je trouve ça intéressant.
Et puis je pense qu'en plus, on lui avait tellement dit que de toute façon, même si après la mère parle beaucoup, de toute façon, elle se sentait responsable en fait de sa mère, parce qu'elle veillait sur elle et sur les secrets et tout ça. Donc c'est encore plus difficile après de dire, bah oui, mais maintenant c'est pas pareil, parce que j'ai un mari, je lui raconte tout, c'est pas si simple que ça.
Il y a des séquences là qui sont absolument croustillantes. Lorsque sa mère, ayant un alibi, va avec son amant, mais assez longtemps éloignée. Et donc, elle a mis à la maison une femme de chambre, enfin, qui est là pour gérer les choses avec ce mari qui est quand même infirme, malade, qu'elle soigne, à qui il faut donner des médicaments, enfin bref. Et puis, cette femme de chambre essaie de la faire chanter.
Ah oui, oui.
Et alors ça, j'ai trouvé... Mais c'est pas possible qu'elle puisse... C'est comme pas possible qu'elle sache. Eh bien si, parce que dans le fond de la commode, la maman écrivait les billets doux, enfin bref, entassait finalement les preuves. C'est une maladresse extraordinaire, ça. Imaginez que... Non, rien ne pouvait paraître, mais justement, il y avait cette faille.
Tout ce qu'il ne faut pas faire pour l'adultère.
Eh bien, là aussi, c'est quand même assez extraordinaire, parce que elle imagine un stratagème pour empêcher justement ce chantage de se faire. Le chantage ne se fait pas, la servante s'en va, mais c'est assez amusant. On a quelques séquences rigolotes, et puis on a aussi quelques passages, parce qu'on est dans un cadre enchanteur, on a des descriptions de l'espace du bord de mer, on a des descriptions de la côte sauvage, on a des descriptions de l'intérêt de la chasse, on a des descriptions de cuisine qui sont...
Oui. Voilà. Ça, c'est, on pourrait écrire tout un livre sur recettes de retour de chasse, par exemple.
Voilà, recettes de retour de chasse.
Ah oui,
d'ailleurs, ça s'appelle festin sauvage.
Oui, oui, oui. Donc, c'est pas pour rien.
On a là véritablement comment l'actualité se mêle, l'actualité, les paysages, la route, bref, la vie quotidienne de gens aisés dans le nord-est des États-Unis, dans la banlieue de Boston.
Ben, Boston, ça dit tout.
Et oui, parce que cette société se sentant comme descendante des Pilgrim Fathers. Donc là aussi, ce souci d'être cette classe typiquement américaine.
Au-dessus de la mêlée.
Voilà. Eh bien, j'espère qu'on vous a mis en appétit pour lire ce livre d'Adrienne Broder, Festin sauvage. Un livre magnifique, dit la quatrième de couverture, mais de fait, il y a des clés différentes qui peuvent plaire à des publics différents, et en tout cas, c'est une bonne lecture, un livre agréable à lire, et puis, voilà, on vous dit bonne lecture, bonne semaine à tous, au revoir.